www.libradio.org, la radio qui pense et qui t'écoute.
Alors nous sommes le samedi 6 mars 2021. Nous allons parler aujourd'hui de la 19e édition du FIFDH. Alors attention, le FIFDH, pour être bien exhaustif, c'est le Festival du film et Forum international sur les droits humains. On l'a dit, 19e édition, ça court du 5 au 14 mars, donc nous sommes au deuxième jour déjà du festival, qui est tout de même long. Alors bonjour Laura.
Bonjour à vous.
Merci de nous consacrer comme ça à brûle-pourpoint un moment pour cette interview. Eh bien, on va peut-être commencer tout de suite par vous demander quel est votre rôle au sein du festival. Qu'est-ce que vous y faites ?
Alors moi, je m'appelle Laura Longobardi et je suis la responsable des partenariats et du programme Impact Day du festival.
D'accord, Impact Day, qui est une extension relativement récente du festival, puisque je crois que ça a commencé lors de l'édition passée.
Ça sera la troisième édition. On a commencé en 2019. L'année dernière, on a miraculeusement pu faire la partie professionnelle, donc c'est le programme professionnel du festival, parce qu'on était, donc on venait d'annuler le festival tant que tel, parce qu'il y avait la restriction dans le rassemblement des personnes dans les lieux publics. Mais par contre, le programme professionnel, puisqu'il y avait beaucoup moins de personnes, et puis c'était quand même considéré une rencontre au niveau professionnel, encore une fois, on a pu le maintenir. Donc 2020, on a pu le faire, et c'était la deuxième édition. Donc 2021, c'est la troisième édition, même si chaque année, on adapte et on évolue comme format pour justement parce qu'on apprend en le faisant, ça change chaque année.
Je trouve ça très intéressant que vous nous expliquiez un peu comment vous êtes entrée dans ce festival et quel est votre parcours à vous.
Alors, oui, donc moi je suis italienne, je suis arrivée en Suisse en 2001, j'avais auparavant travaillé à la télévision italienne, la RAI, où j'avais contribué à lancer les premières chaînes thématiques satellitaires à la fin des années 90, et via ce travail, j'ai eu l'occasion de rentrer en contact avec l'UR, l'Union Européenne de Radio-Télévision, qui est basée à Genève, qui m'a proposé de venir rejoindre l'équipe des coproductions internationales. Donc Philippe Jacot, qui était le chef de cette unité à l'époque, et que j'avais invité à un événement que j'organisais pour la RAI, notamment sur les coproductions de Quoi pour les enfants, m'a proposé de rejoindre son équipe en 2001. Et du coup, j'ai travaillé 14 ans dans ce département, donc le département de télévision. Et je me suis occupée surtout de coproductions internationales de documentaires. Documentaires d'abord scientifiques et après documentaires de société et disons de grand format. Et depuis 2017, j'ai rejoint l'équipe du festival et je suis arrivée avec l'idée de... Parce que je venais un peu de ce parcours, j'ai beaucoup travaillé avec des producteurs, des chaînes de télévision pour la production, la coproduction des documentaires. Donc j'avais envie d'amener dans ce festival déjà très riche et qui a une identité très forte, une partie un peu plus industrie, c'est-à-dire où les professionnels qui produisent du cinéma puissent avoir un espace d'échange, notamment d'échange avec la Genève internationale, en partant du principe que voilà, un producteur ou un cinéaste qui travaille sur un film qui s'occupe par exemple des centres de détention en Libye n'est pas seulement l'envie de faire un beau film qui soit vu par un grand public, qui fasse les festivals, qui gagne des prix et qui passe à la télé, mais qui avoir aussi l'intention que ce film puisse contribuer à changer la situation, notamment la situation terrible dans laquelle se trouvent les migrants qui essaient de venir en Europe et qui se retrouvent pendant des mois dans des violences dans les centres de détention en Libye. Donc il y a beaucoup de cinéastes, pas tous, mais il y a beaucoup de cinéastes, notamment documentaires, qui ont à la base de leur démarche un esprit de de militants, en fait, de militantes. Donc, vraiment, une envie que leur film puisse contribuer à faire bouger les choses dans la bonne direction. Et du coup, donc, je suis arrivée avec cette idée en tête, qui n'était pas encore tout à fait un projet très, très concret, et qui a évolué depuis. Et c'est comme ça qu'en 2019, j'ai lancé l'Impact Day, qui est donc cet espace au sein du festival pour que les cinéastes engagés et les ONG, les organisations internationales, les fondations qui travaillent sur des thématiques liées aux droits de l'homme puissent se rencontrer, puissent se retrouver et puissent finalement rejoindre les forces pour le même combat.
Alors, on va y venir, hein, bien entendu, mais avant cela, j'aurais voulu que l'on place quelques jalons, d'abord d'ordre très général, et puis ensuite, on va aller lentement en deux parties au focus du festival et au focus de l'Impact Day. J'aurais voulu commencer par des questions d'ordre général pour ouvrir sur le monde qui nous entoure, monde compliqué s'il en est actuellement. Par cette question cinéma, quel est son rôle, ses rôles dans le monde qui nous assiège actuellement ?
Ben évidemment, en tant que festival du cinéma, on considère, moi je suis persuadée que le cinéma puisse jouer un rôle central pour dans le monde de la culture, mais aussi dans le monde de la prise de conscience de ce qui nous entoure. En fait, c'est l'occasion pour plonger dans des vies, dans des situations, dans des mondes qui sont loin de nous, en tout cas physiquement, mais la capacité à raconter des histoires et la capacité du cinéma, c'est celle de nous faire plonger dans des situations qui nous semblent tout d'un coup très réelles et très, très proches de nous. Donc nous, on aime beaucoup utiliser le cinéma pour ce qu'il est, c'est-à-dire avant tout une forme d'art, mais aussi une forme de voyage avec la tête, avec l'esprit, pour se mettre un peu dans la peau d'autres personnes qui vivent des situations différentes des nôtres.
Très bien. Les biais du cinéma maintenant, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, le cinéma, c'est également parcourir des univers. Il se trouve que, voilà, dans cette situation particulière qui nous assiège, eh bien, on a vu l'émergence de fake documentaires, pourrait-on dire, de cinéma particulier, peut-être aller jusqu'à du cinéma complotiste. Est-ce que ça, c'est un danger actuellement ? Et est-ce que ça vous a questionné dans l'équipe de faire attention à ce qui surgit comme ovni cinématographique d'une certaine manière?
Oui, bien sûr, vous avez raison, et c'est un peu le problème des informations en général, pas seulement dans un temps de pandémie, mais je dirais dans un temps où chacun et chacune peut devenir réalisateur, réalisatrice d'informations, parce que le web, tout simplement, nous permet à chacun d'écrire, de produire du contenu et de le mettre à disposition des autres. Donc ça, c'est un problème réel qui est rendu encore plus difficile par l'intelligence artificielle. On connaît bien maintenant un peu la perversion des algorithmes qui nous montrent quel est le contenu qui nous intéresse ou qui fait partie du cercle dans lequel les algorithmes nous casent, et donc le risque de polariser et de faire devenir encore plus de radicaliser les positions. On l'a vu déjà depuis quelques années avec l'élection de Trump, l'utilisation de Facebook et des autres médias sociaux dans ce sens-là. Et évidemment qu'il faut faire attention. Et donc, je ne pense pas que le documentaire soit particulièrement un exemple. C'est un exemple parmi les autres, pas plus dangereux que les fake news ou que les deep fakes, c'est-à-dire carrément l'intelligence artificielle qui exploite les images, même filmées, de personnes pour leur faire dire des choses qui ne sont pas du tout ce qu'ils ont dit. Même historiquement, on peut manipuler un discours de Martin Luther King ou de JFK et lui faire dire des mots qu'il n'a jamais prononcés. Donc ça, c'est vraiment le risque de la technologie et de l'utilisation de la technologie comme tout avancement technologique qui peut être utilisé dans le bon ou dans le mauvais sens. Ça, on le sait par l'histoire, je dirais. Mais après, nous, on est là aussi pour justement aider les personnes et nos spectateurs, notre public, à avoir un esprit critique. Ça, c'est vraiment ce qui anime depuis le départ ce festival, l'esprit critique pour se faire ses propres idées, écouter plusieurs sources différentes et à ne pas juste avoir un point de vue ou une source qui nous donne les règles et puis les informations du monde qui est beaucoup plus complexe que ça, en fait.
Oui, donc c'est effectivement extrêmement intéressant de savoir que vous êtes extrêmement attentif et attentif à la sélection des films et voilà. Concernant, eh bien, on l'a déjà un petit peu dit, mais concernant le cinéma au temps des réseaux sociaux, alors selon vous, est-ce que là une NUE est-elle nécessaire pour le rendre compatible, ou est-ce que les salles de cinéma resteront les sanctuaires du cinéma?
Ben moi, j'espère qu'elles vont bientôt réouvrir et qu'on pourra bientôt retrouver nos publics dans les lieux qui sont les lieux dédiés au cinéma, au film, le cinéma, dans l'atmosphère et surtout dans le partage que le fait d'être ensemble dans une salle, dans l'obscurité, nous permet. Après, ce n'est pas le seul moyen. Je pense que c'est intéressant de voir que beaucoup de contenu, même de très haute qualité, peut être consommé, entre guillemets, sur les différents réseaux. On a vu l'évolution des plateformes telles que Netflix ou d'autres plateformes qui produisent du contenu et diffusent et distribuent du contenu qui sont évidemment très très sollicitées par le fait qu'on passe beaucoup de temps à la maison et que finalement c'est une forme de retrouver des films aussi de très haute qualité sur ces plateformes. La qualité a beaucoup progressé ces derniers temps, mais je pense que le cinéma reste ce lieu où on va ensemble. C'est comme le théâtre, c'est pas la même chose de regarder une pièce de théâtre devant son écran ou dans une salle où il y a les émotions, les bruits aussi des autres, les réactions des gens qui sont autour de nous, et après évidemment la possibilité de discuter avec la personne qui est à côté de nous sur qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on vient de voir, l'émotion qu'on a partagée. Ça, je pense que ça va rester quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs, cet ensemble en fait d'expérience qui est le cinéma.
Un petit peu à l'image du vinyle, à l'époque on disait que le vinyle disparaîtrait au profit du CD ou d'autres supports audio, et puis on voit bien que ça n'est pas le cas, même au contraire.
Ouais, on l'a dit du théâtre quand la télévision est arrivée.
Le livre également.
On l'a dit du livre, on l'a dit du cinéma quand il y a eu la télévision. Finalement, c'est différentes formes d'avoir des expériences différentes, et moi j'espère que dans le futur proche, le plus proche possible, on aura à nouveau le choix de comment on préfère en fait vivre cette expérience magnifique qui est le film, quoi.
On va ajouter pour notre petite chapelle que la radio en est une également, d'expérience singulière.
Absolument.
Alors encore deux.
On l'avait donné aussi pour morte quand il y avait la télévision, et finalement ça n'a pas été le cas.
Absolument. Laura, j'ai encore deux petites questions concernant cette première partie. Voici la première, et puis Caro, tu me fais signe, hein, bien entendu, à tout moment. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais j'aurais voulu avoir vraiment une réponse un petit peu plus exhaustive de votre part. Le cinéma doit-il se saisir du réel ou au contraire nous en extraire? Ça, c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet, l'anticipation, l'utopie, la dystopie. En quoi le cinéma peut-il construire des imaginaires et des représentations? Est-ce que le cinéma est-il là plus pour saisir le réel et nous le rendre d'une certaine manière, hein, les biopics, je pense à ça en particulier, ou nous en extraire, que ça doit être vraiment un conte, Et est-ce que les différents types de cinéma, typiquement l'anticipation, l'utopie ou la dystopie, hein, Matrix, enfin il y a plein, en quoi le cinéma peut-il voilà, contribuer à construire des imaginaires et des représentations du monde que l'on peut se faire par la suite.
Concernant la première partie de votre question, je pense qu'il faut garder les deux et l'un n'exclut pas l'autre, dans le sens que, après c'est aussi une question de goût, c'est comme est-ce qu'on préfère lire un essai ou plutôt un roman. Je pense qu'on a besoin des deux, on a envie de connaître le réel. Moi, je suis passionnée de documentaire parce que j'aime bien me retrouver devant la vie des autres et les réalités des autres qui vivent des situations différentes, des fois difficiles. Mais j'aime bien voir représenter la vie réelle à l'écran parce qu'il y a de toute façon toujours une approche artistique et cinématographique à cette vie, même dans un documentaire. C'est pas juste la reprise telle quelle d'une histoire, mais c'est une interprétation de cette histoire, mais aussi nourrir notre imaginaire. Bien sûr, il y a des films magnifiques qui nous font rêver, qui nous plongent dans des réalités qui sont imaginées, mais pas pour autant c'est moins intéressant de s'y plonger. C'est le côté vraiment un peu rêvé de notre vie. Donc je pense que les deux ont le droit d'exister et ont la pertinence d'être dans ce monde magnifique qui est le monde du cinéma. Nous, on essaye aussi dans le festival d'avoir les deux aspects. On a le volet documentaire qui est plus important parce qu'il y a beaucoup de films qui accompagnent effectivement les thématiques qu'on a envie de raconter et pour lesquels on va plus loin en organisant des débats derrière, mais on a aussi des magnifiques fictions, des fois prises de faits réels et des fois moins. Mais voilà, je pense que chacun son goût, non, comme on dit, et puis c'est important d'avoir cette palette, ce choix, parce que l'art, de toute façon, sert à être un portrait de la réalité, mais aussi à réimaginer la réalité, à nous aider à réimaginer la réalité de manière que seulement les artistes arrivent à faire correctement.
Ok, et concernant le deuxième volet, alors anticipation, utopie, dystopie, eh bien là également, on peut dire que tout finalement contribue, comme vous le dites, à ce que l'on se forge des imaginaires et également des représentations du monde, que ce soit de...
Oui, excusez-moi. Non, je disais après, il y a des films qui sont plus ou moins réussis dans ça. Après, il faut toujours essayer de choisir la qualité, la capacité justement de l'artiste de rendre ces réalités-là. Mais sur le principe, je pense que c'est toujours bien d'avoir ce choix et il ne faut pas mettre dans des cases des œuvres qui sont uniques d'une certaine façon quand elles sont vraiment le résultat d'une œuvre artistique.
Très bien. Je vous remercie beaucoup, Laura, pour cette première partie. J'en profite, comme on a une Italienne, une italophone au bout du micro. Le cinéma italien, en quelques mots, y aurait-il un film comme ça qui surgirait, un ou plusieurs films ou un ou plusieurs réalisateurs? Je te demande ça parce que récemment, nous avions chroniqué une pièce de théâtre autour de Pasolini, donc évidemment Pasolini c'est également un cinéaste, et nous avons chroniqué également un film de Elio Petri, dont le cinéma engagé, eh bien, c'est une des figures tutélaires, et ce film était Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, donc avec Gian Maria Volonté. Alors ce cinéma italien-là, engagé, selon toi, est-il encore vivant?
Cette année, dans le festival, on a Notturno di Gianfranco Rosi, qui est un film engagé. Gianfranco Rosi est un cinéaste engagé et je pense que le cinéma italien, on peut parler de plusieurs vagues vers le haut et vers le bas du cinéma italien comme dans beaucoup d'autres pays, mais ça reste un cinéma qui regarde la réalité de manière très directe, très franche. Bien sûr, tout le monde pense au néoréalisme des années 50. Ça, je pense que tous les cinéastes italiens ont un pied là-dedans, surtout ceux qui font du documentaire, même si c'était une époque où on faisait beaucoup de fiction. Et puis finalement, c'est un cinéma... les Italiens adorent parler de cinéma, adorent aller au cinéma. Et je pense, comme tous les autres Européens et cinéphiles du monde, souffre de ne pas pouvoir y aller à ce moment.
www.libradio.org La station debout.